Bonjour Gaël.
Bonjour.
Très content que tu sois avec nous aujourd'hui sur ce podcast. Alors là, on a quelqu'un vraiment de très connu dans la communauté cyber qui a énormément apporté à la communauté. Je vais rappeler à nos auditeurs rapidement l'idée de ce podcast. C'est de retracer l'histoire de la cybersécurité française à travers des dates, un thème et une personne qui peut en témoigner. Voilà, donc on a reçu Mathieu Graal pour Ebios, on a aussi Pierre Devez pour les certifications de personnes, on a reçu Alain Bouillet pour le Cézin. Et donc aujourd'hui, on va parler des radiofréquences et des hackers en France. Mais avant tout, on t'a sûrement vu à la télé, en tout cas si vous faites partie de la communauté cyber, hein, ça c'est sûr, ou à côté d'une voiture. On va parler de tout ça. Et est-ce que tu peux te présenter ?
Alors, je suis Gaël Musquet, je suis hacker éthique, mais à l'époque, il n'y avait pas de formation cyber. Donc moi, ce que j'ai appris à l'école, c'est la météorologie instrument. Moi, je suis issu des filières électroniques qui permettent de fabriquer, concevoir, maintenir, faire évoluer, larguer, catapulter des capteurs météorologiques. C'est de là que je viens, du terrain. Et c'est ce qui m'a permis de glisser hein, gentiment sur des aspects de disponibilité, sur les systèmes embarqués, de sécurité des systèmes embarqués, sur tout type de véhicule, même si le véhicule que j'utilise régulièrement, le Red Pearl, mon véhicule atelier, c'est une voiture, mais je suis amené régulièrement à travailler sur d'autres types de machines, des bateaux, des avions, des hélicos. Évidemment, tout autre système de système embarqué qui vise à mesurer. Parce que je suis resté fidèle à quand même mes objectifs initiaux. Hein. J'étais victime de l'ouragan Hugo en 1989.
Ah d'accord.
Donc voilà, j'ai quand même, je me suis promis enfant à 9 ans que mon métier plus tard, ce serait de protéger, d'aider les populations à faire face aux risques majeurs, risques cycloniques en particulier. Et donc voilà, c'est un peu comme ça que je suis arrivé aussi dans le monde de la cyber, qui n'est pas si éloigné que ça, hein, que de la gestion de risque et de la gestion de crise risque majeur. Parce qu'au final, notre boulot, c'est quand même de protéger.
Ah oui. Donc, tu es vraiment déjà météorologue et hacker éthique. Tu as deux casquettes. Hein. Ça, je ne pense pas que toute la communauté le sait. Tu es autodidacte. Ça, c'est important de le savoir, comme oui. Pas mal de personnes dans la communauté. Autodidacte de très haut niveau. Hein. Vraiment un quotient intellectuel. Moi, j'aimerais bien le connaître. Impressionnant. Tous ceux qui connaissent Gaël, ils savent de quoi je parle. Alors, je sais aussi que tu as travaillé, on va en parler après, dans ton parcours, hein, j'aimerais bien continuer dessus parce que je sais qu'il est très large. Tu as travaillé pour l'armée, ou tu travailles toujours peut-être même pour l'armée.
Oui, ça m'arrive de participer à certains travaux sur de la supervision aérienne, donc sur la base aérienne 105 à Évreux, dans une escadre qui s'appelle l'escadre aérienne de commandement et de conduite projetable, pour laquelle on a travaillé sur des sujets liés, encore une fois, hein, à la cybersécurité des trames de navigation sur les aéronefs. Et puis après, évidemment, énormément de synergie et d'aide des forces que je remercierai jamais assez sur des théâtres de missions humanitaires à la frontière syrienne, sur des théâtres avec SOS Méditerranée, sur les problématiques de crise migratoire et de personnes naufragères en Méditerranée, sur pratiquement tous les théâtres, malheureusement, qui ont jalonné l'actualité. Irma à Saint-Martin. Belal, Garance, Chido, voilà, pu apporter ma pierre à l'édifice sur ces problématiques de communication, de rétablissement des communications pour pouvoir aider au mieux les personnes qui en ont besoin, les ONG, bien évidemment. Donc voilà, c'est un monde auquel je n'étais pas forcément familier, mais qui m'a beaucoup apporté, et on en parlait juste avant le début du podcast, ne serait-ce qu'apprendre à dormir, gérer mon effort, gérer ma fatigue. Je dois énormément aux forces armées françaises qui m'ont permis de durer physiologiquement, physiquement, mais aussi culturellement, la culture scientifique et technique, apprendre d'elles, ses forces, comment on gère une mission, comment on a aussi un leadership sur des équipes dans des moments où on a un très fort stress, où on doit gérer des urgences primaires, hein, l'eau, l'accès à la nourriture, se mettre en sécurité, communiquer, demander de l'aide, proposer son aide, tout ça, voilà, j'ai pu l'apprendre.
Oui, tu as vraiment une corde aussi, je dirais, de gestion de crise humanitaire. Tu fais aussi de la formation, hein, tu es enseignant dans de grandes écoles.
Tout à fait.
Voilà, ça, c'est important. Et il y a encore plein de choses.
Donc, J'ai réalisé tous mes rêves d'enfant. Ouais. Tout ce que je devais faire, j'ai fait. Et voilà, je vis aujourd'hui de toutes mes passions. Entre-temps, je me repose aussi un peu.
Ça arrive
Ça m'arrive, ouais. Oui. mais voilà, j'ai réalisé tous mes rêves. Donc, j'essaye aujourd'hui, à mon tour, comme des adultes l'ont fait pour moi, mes parents, mes voisins, des collègues de travail qui m'ont formé, qui m'ont compagnonné. J'essaye à mon tour de rendre ces rêves accessibles aux générations qui arrivent. Je suis papa, mes enfants ont 18 et 16 ans. Donc c'est à leur tour aujourd'hui de prendre la relève. Et voilà, j'ai envie d'être aussi bienveillant qu'on l'a été avec moi et leur permettre de rentrer pleinement à la fois dans la vie active, mais sur toutes les problématiques et défis qu'ils vont avoir à relever là.
C'est là qu'on reconnaît ta patte, je pense, aussi de hacker. C'est l'objectif aussi de transmettre. Donc, un grand salut à la communauté d'hackers, évidemment. On va rentrer dans le vif du sujet de ce podcast. C'est les radiofréquences. C'est quelque chose un peu de méconnu. La communauté hacker, on ne la connaît pas forcément. Je pense que tu vas faire le lien entre les deux. Est-ce que tu peux nous parler dans quel contexte, on va dire, qu'on a commencé à parler des radiofréquences ? L'apparition des radiofréquences en France, je pense qu'il y a aussi un historique là-dessus, et du hacking.
Alors, moi, j'aime bien commencer sur les cours que l'on donne à Centrale Supélec sur le début de la radio. On commence par le télégraphe de Chappe, qui était de la télégraphie optique. Donc, c'est des bras articulés qui permettaient de transmettre via un alphabet et des figures bien déterminées des messages codés. C'était une télégraphie optique. Et je pense que les prémices de premier hack en matière de transmission, on va dire sans fil, là, c'est de l'optique. On n'est pas encore en train de parler de radiofréquence, on est en 1834, 1836, 1834. On a les frères Blancs qui ont réussi à corrompre un opérateur de télégraphie à Tours. Et ils récupéraient les cours de la rente à 3%, donc la Bourse de Paris, qu'ils transmettent. Et eux, ils effectuaient en fait des investissements à partir de cette rente à 3% qui mettaient des jours à arriver à Bordeaux. Ils mettaient, grâce à la corruption de cet agent, ils introduisaient des erreurs dans les messages qui étaient reconstitués à Tours. Et ces erreurs transmises leur permettaient d'avoir l'information en avance. Incroyable. Cette histoire, elle est très importante parce que à date, c'est la première corruption d'un système d'information, là, en l'occurrence, économique. Hein, en
train incroyable, on parle l'histoire de la cyber.
délit d'initié, presque, ouais. sur de la télégraphie. On fait un procès à ces frères Blancs en 1937. Et cette histoire est peu connue. Ils ne sont pas innocentés, mais on n'avait pas de base légale pour les juger. Parce qu'il n'existait pas encore de loi condamnant des personnes pour ayant accédé, pour ayant détourné, pour ayant pénétré un système d'information, un système de transmission. Incroyable. Et donc, ils gardent tout le gain. C'est quand même 2 à 3 ans de bénéfices. Et ça avait déjà semé le doute. Hein. Leur succès, investissement après investissement, avait déjà mis la puce à l'oreille au régulateur boursier déjà à l'époque. Mais on n'avait pas de base légale pour savoir comment ils faisaient. Et ils le faisaient en piratant et en interceptant. Et ça aurait pu continuer des années. C'est juste que l'opérateur en question qu'ils avaient corrompu est décédé. Et en décédant, il a transmis des instructions à un membre de sa famille qui n'a pas obtenu grâce auprès du directeur de la gestion de la station de Tours et qui a dénoncé l'intégralité du système et donc donné lieu à ce procès, à un texte de loi qui a aussi imposé, les députés ont fait voter une loi qui impose le monopole d'État au système de télégraphie pour éviter justement qu'il soit corrompu par des tiers et des groupes de pression. On est en 1834. Voilà. Je fais avance rapide. Marconi, 1903. Avec un magicien, Meskeline, Marconi, donc, qui devait faire une démonstration à Londres sur des transmissions radio. Là, on parle de télégraphie sans fil. Et Meskeline transmet, avant Marconi, en morse, un poème avec des insultes Et donc, il prouve que la télégraphie sans fil ne permet pas de respecter la confidentialité des messages. Là, on est en 1903.
Wow.
On a une histoire plus malheureuse qui est celle de 1902. Mais même année, 1903, on a quelqu'un qui, pour moi, fait figure, si on revient en France, évidemment, dans le thème du podcast, pour moi, le premier hacker émérite sur les radiofréquences, c'est le capitaine Ferrier. Qui expérimentait déjà la télégraphie sans fil dans le prolongement des expériences de Marconi et qui, au moment de l'éruption de la montagne Pelée en Martinique en 1902, teste pour la première fois de l'histoire de l'humanité la télégraphie sans fil en situation de crise.
Mmh.
Donc, moi, je me considère vraiment, évidemment, avec beaucoup de transmetteurs dans les forces armées, comme un héritier de Gustave Ferrier. On a un musée, d'ailleurs, qui porte son nom à Cesson-Sévigné, le musée des transmissions, que je vous invite à aller découvrir, qui permettrait d'illustrer énormément d'anecdotes que je cite de vive voix. Mais pour raccourcir un peu les anecdotes autour de la cybersécurité française, il faut bien comprendre qu'au moment de l'éruption de la montagne Pelée, ce volcan, il casse les câbles télégraphiques. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a su à quelle heure exacte le volcan a explosé. Saint-Pierre en Martinique est à l'époque la capitale économique, la capitale culturelle de la France dans les Caraïbes. On appelait Saint-Pierre le Petit Paris. Je ne vais pas refaire l'histoire de la montagne Pelée, mais il faut bien comprendre que le capitaine Ferrier qui part en Guadeloupe, puis en Martinique, puis en Guadeloupe pour rétablir les communications, établir ce lien radio entre la Martinique et la Guadeloupe, 200 km, pour rétablir et aider les populations qui sont en détresse, pour moi, c'est l'illustration du génie français, du génie et de l'application aussi de petites bidouilles à l'époque. Qui n'avait pas forcément attiré l'attention pleine et entière des armées, mais on a essayé, on a expérimenté. Gustave Ferrier, par rapport à l'histoire de Marconi sur le hack et les insultes en morse, etc., c'est quand même une personne qui revient à Paris en 1903 et qui pose, fort de ses expériences aux Antilles, ses émetteurs sur la Tour Eiffel. Il s'associe quand même avec Gustave Eiffel pour pouvoir poser non seulement des stations météorologiques, on comprend pourquoi je dis que je suis un peu un héritier, et ces stations de transmission télégraphie sans fil, ce qui permet non seulement, bah, évidemment, de transmettre des données météorologiques, d'expérimenter la performance de ces émetteurs, de pouvoir transmettre le temps, donc coordonner le temps dans les différentes gares françaises, par exemple, sur les voies ferrées. Que toutes les gares soient à la même heure et qu'on ait une expansion, une extension des réseaux ferrés grâce à une base de temps commune, de transmettre le temps au bateau, donc d'assurer la sécurité de la navigation maritime, parce qu'on calculait très bien les latitudes grâce au sextant, mais très mal les longitudes. Gustave Ferrier, d'ailleurs, devient membre émérite du Bureau des longitudes, qui existe encore aujourd'hui et qui définit ce que c'est qu'une latitude et qu'une longitude, qui a permis de donner naissance aussi aux satellites de positionnement par satellite, qui sont ni plus ni moins que des horloges atomiques qui transmettent le temps par radio. C'est ça, hein, satellite GPS, Galileo, Baidu, QZSS. 1912, le Titanic qui heurte un iceberg. Comment on a su qu'il était en détresse? Télégraphie sans fil. Donc on voit que ces travaux et ces expérimentations, on ne parlait pas encore de hackers à l'époque, on peut peut-être plus parler d'ingénieurs, mais pour moi, ce petit pas de côté, de se dire, OK, je vais utiliser telle technologie dans tel cas, tel usage, telle catastrophe, tel drame. Pour moi, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en capacité de se parler, de transmettre des informations, transmettre le temps, horodater évidemment des transactions financières, sécuriser les transmissions de transactions financières, bien tamponner évidemment la traçabilité alimentaire, une date, on a des dates limites de consommation, c'est la sécurité alimentaire qui est liée aussi à ces travaux radioélectriques. Donc voilà, en préalable de ce qu'on allait se dire, je tenais quand même à rappeler ces histoires. Gustave Ferrier, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même la personne qui a sauvé la Tour Eiffel.
Je pense qu'il y a plein de personnes qui vont aller voir le profil Wikipédia.
Gustave Ferrier, ça c'est sûr. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, dans son jeune âge et par la suite, hein, il a continué à travailler, a marqué l'histoire de France et l'histoire avec un grand H mondial, de l'humanité avec un grand H, de par ses travaux. Je pourrais parler aussi de Georges Raoul Nicolo, qui était un Guadeloupéen, qui a lui aussi, par ses travaux émérite sur les pompes à diode, sur les centrales nucléaires, mais aussi sur les transmissions radio et télévision. J'y reviendrai. Mais Georges Raoul Nicolo, Guadeloupéen, qui a énormément fait progresser les transmissions de télévision, sur les composants électroniques, sur la transmission radio de la télévision, sur le fait de pouvoir disposer de plusieurs canaux pour recevoir la télévision. Donc voilà, on a des gens qui ont illustré et jalonné, bien avant qu'on parle réellement de cybersécurité, l'histoire de France et l'histoire des télécommunications.
Beaucoup de Français, alors.
Et beaucoup de Français, hein, et des Français qui ont joué un rôle international, qui ont été distingués à l'échelle internationale pour leurs travaux sur les transmissions radioélectriques.
Très bien. Très, très bien. Bon, un cours d'histoire, je pense que c'est important. On est là pour ça.
Bien sûr.
On est là pour comprendre pourquoi aujourd'hui on a une AKRF et qu'on est capable de faire ça. Pourquoi, voilà. Pourquoi on te voit à côté d'une voiture très souvent. voilà. Bah, d'ailleurs, tu peux nous en dire peut-être plus. Aujourd'hui, alors, maintenant que les radiofréquences sont plutôt quelque chose de courant, il en est quoi de la partie offensive ou défensive, peu importe, sur ces systèmes ?
Alors, c'est vrai que si on fait avance rapide entre finalement les années 50, 70, on a eu des crashs aériens. La Russie qui abat deux avions coréens parce qu'ils se trouvaient au mauvais endroit, au mauvais moment. On n'avait pas encore les constellations de positionnement par satellite comme le GPS. On a eu des drames qui, par l'absence ou par la corruption des données radio, ont donné lieu à une vraie discipline qu'on appelle la signal intelligence, mais qui existe depuis la guerre. Enigma, les transmissions radio interceptées, le décodage, le déchiffrement de ces signaux. Mine de rien, on parle déjà avec ces machines qui décodent ces travaux dès les années 40, les années 50. Les transmissions de télévision, les systèmes Nagravision, par exemple, qui servaient à chiffrer les communications télévision pour Canal+. On a une grande communauté dont j'ai participé
un peu
pour le décodage. Mon pseudo de hacker vient de là, d'ailleurs. C'est parce que j'étais... pseudo de hacker, c'est Radzilla. Parce qu'en prépa, dans les années 95, 96, 98, j'ai eu mon bac en 98, donc la prépa, pour moi, c'était plutôt 99-2000. Je décodais à l'époque avec Meme TV, avec le calcul matriciel en prépa. C'est une belle application de mes cours de mathématiques avec le fameux chipset Philips BT878, pour ceux qui s'en souviennent, qui permettait de décoder logiciellement et non plus électroniquement comme les premières Brutas le faisaient au début.
Oui, effectivement.
Les camarades, ils trouvaient ça hallucinant que j'arrive à faire ça. Bon, moi, ça avait l'air basique parce que j'avais téléchargé, adapté, décodé des trucs en m'appuyant sur les travaux d'autres personnes.
Bon, ça a coupé. un petit prévu du direct. De toute façon, c'est pour la communauté. Tu nous disais, TV, oui.
Les copains, ils trouvaient ça tellement énorme que je puisse décoder. Alors, Canal+, à l'époque, faut pas se raconter d'histoire. Il y avait deux raisons de regarder Canal+. La première, le foot. La deuxième, les films pour adultes. Donc, je vous laisse imaginer dans quelles circonstances, évidemment, j'étais sollicité par ses camarades pour pouvoir décoder Canal+. C'est là que j'ai fait mes premières armes sur la radio, là, pour le coup, logiciel, puisque là, on avait un récepteur télé qui, logiciellement, permettait de décoder cette chaîne chiffrée. Et mon pseudo, il vient de là, c'est que les gars, ils trouvaient ça, et copines aussi, j'ai pas que des gars dans ma classe, ils trouvaient ça tellement extraordinaire. Il y avait Godzilla qui sortait à l'époque, mon nom de famille Musqué, le rat Musqué, c'était péjoratif, donc ça a donné rat pour le préfixe et Zilla pour le suffixe. Et au final, le S, parce que le radzilla.com était réservé. Donc, pour trouver un nom de domaine que je puisse réserver, qui existe encore, Radilas avec un S. Et mon pseudo, il est né comme ça en 99, en Guadeloupe. Voilà, donc très lié en plus déjà à la radio pour du décodage et du déchiffrement. Là, c'est aussi une manière pour moi, sous Linux, sous de nombreux systèmes d'exploitation que je découvre et sur lesquels j'approfondis mes connaissances, une manière aussi de renouer avec une communauté d'entraide où on se partage les logiciels, on se partage les bonnes pratiques, on se partage des clés de chiffrement, on se partage tout un tas de trucs sur Internet. On n'était pas encore au débit, la DSL, on était encore sur du 56K. Hein,
ah oui,
56 kilobits pour, sur des modems. Et quand on fait avance rapide entre les années 90-2000, on est donc sur à la fois la télévision, donc des grandes communautés radio-fréquences et la télévision, le GSM, donc tout ce qui touche au fracking, mais plutôt fracking, pas sur les lignes, pas sur Captain Crunch. Voilà, mais là, on est vraiment sur du GSM au début balbutiement en fait de la 2G, hein, de la 1G voire de la 2G,
oui.
Évidemment les radios amateurs, puisque on a quelques développeurs du noyau Linux, hein, qui travaillaient déjà sur de la X25, de l'audio X25, et qui ont mis dans le noyau Linux, qui est encore supporté aujourd'hui. Quand vous compilez votre noyau Linux, vous avez encore ce module la X25 que vous pouvez compiler pour pouvoir supporter la transmission en X25, un protocole réseau, vous pouvez transmettre encore des informations. Là, j'ai une demi-heure radio dans mon sac, où je peux communiquer en paquet radio, donc en AX25, qui est encore utilisé aujourd'hui. Et on fait encore, on a encore des satellites, des CubeSats, qui communiquent, radio amateurs, qui communiquent encore sur ce protocole et sur lesquels on peut, même si on ne peut pas chiffrer en tant que radio amateur, mais qui permettent évidemment de transmettre des informations avec un peu les mêmes tonalités qu'on entendait quand on décrochait notre téléphone et qu'on composait certains numéros pour pouvoir accéder à Internet. Donc voilà, moi je viens un peu de là. Aussi, je suis issu aussi de ces communautés, puisque aujourd'hui je suis radio amateur. Mon indicatif, c'est Foxtrot 4 Hotel Excelsiora pour la France et la CEPT, donc la communauté européenne. Et November 6 Hotel Excelsiora pour ma licence radio amateur, cette fois-ci américaine. Et donc, j'ai aussi, grâce à cette communauté de radio amateurs, découvert un monde. Parce qu'on n'a pas d'organes sensoriels qui nous permettent de recevoir la radio. Donc, à un moment, on a besoin d'outils, d'instruments qui nous permettent de recevoir ces signaux. Et entre les années 2000-2010, avec l'avènement du Wi-Fi, on a vu apparaître d'autres communautés, donc, notamment sur le déchiffrement des clés web qui sont tombées, avec du WarDrive, AirCrack NG. On a vu tomber ces clés au fur et à mesure, WPA aussi. On a vu naître des outils autour du WarDrive, aller scanner toute une ville, plein de quartiers, et ensuite découvrir des points d'accès ouverts ou peu sécurisés pour accéder à Internet.
Ou nommer en plus.
Exactement, avec des petits signaux et des petits logos dessinés à la craie qui permettent d'indiquer la présence ou pas de réseaux ouverts et ou peu sécurisés. On a vu apparaître les Pirate Box. Là, pour le coup, la mise à disposition en ligne avec l'avènement d'Adopi et des lois liberticides sur l'accès à la culture. Les Pirate Box qui permettaient de donner accès à du contenu sur des hotspots Wi-Fi avec des espaces de stockage. C'est tout ça aussi.
C'est une deuxième génération, tu l'appellerais
qui,
comme ça.
C'est
hein,
ça,
c'est,
qui arrive. Et qui étend un peu ce qu'on arrivait à faire uniquement quand on était radio amateur, mais là on arrivait de proche en proche comme ça, l'arrivée de FDN, French Data Network, c'est 1992 avec la Fédération française des fournisseurs d'accès associatifs, qui ouvre un boulevard avec les faisceaux hertziens qui commencent à naître. On scanne avec Turblog, Theta Neutral à Toulouse.
Ils vont être contents là.
Voilà, voilà tous ces hackerspace ces groupes d'utilisateurs de Linux qui se fédéraient autour d'outils radio pour pouvoir envoyer, permettre aux gens de maîtriser les sous-jacents physiques et techniques de ce qu'est l'accès à Internet. Alors évidemment, ADSL, VDSL, SDSL, fibre optique. Ça, pour la partie filaire et câblée. Mais on a aussi beaucoup d'associations. Là, j'en ai cité deux, trois, mais on a beaucoup d'associations du côté de Compiègne, d'associations qui se sont illustrées en mettant à disposition, en permettant à des personnes, à des entreprises d'avoir accès à Internet, des boucleurs locales radio, d'avoir accès à Internet à travers les fréquences radio. On a quand même une grosse communauté, même si ce qu'on vit en ce moment, c'est les fameuses clés qui permettent d'accéder aux différentes grandes compétitions de football. Je ne suis pas un fan de football. Je respecte les fans de football. Mais moi, personnellement, je n'en regarde, je ne regarde pas trop. Ça me rappelle un peu ce qu'on a vécu à l'époque de Kademlia, de BitTorrent, etc. On a aussi une très grosse communauté qui détourne les signaux de transmission de télévision par satellite. Et ce qu'on a connu sur le satellite, on est en train de le connecter aujourd'hui le câble, sur ces clés qui permettent d'accéder à des contenus sportifs et ou culturels. Et enfin, pour moi, tous les chercheurs qui ont travaillé, toute la communauté qui a travaillé sur le SS7, sur les tables arc-en-ciel, sur le chiffrement des réseaux 2G, sur les IMSI catchers, sur les vulnérabilités autour du Bluetooth, récentes d'ailleurs, sur des chipsets Bluetooth qui sont corruptibles, qui permettent à minima d'intercepter une conversation, à maxima de prendre carrément le contrôle de l'appareil et ou des enceintes vocales ou des assistants vocaux connectés à tout ça. Donc, beaucoup d'enjeux sur la vie privée. Tout ça, compilé, ça commence à faire une communauté d'intérêt assez importante. Et je te laisserai faire le lien avec les véhicules, mais on en parlait juste avant. Nos voitures massivement connectées, bientôt tout ou partie, en tout cas niveau 3, 2, 3 pour l'instant, autonomes, vont dépendre de ces réseaux radio, d'où ça, l'importance de monter en puissance sur la sécurité de ces réseaux.
Parce que finalement, il y a l'IoT. Si je résume un peu ce que tu dis, c'est qu'il y a les prémices des radiofréquences avec les frères Leblanc.
Ouais.
Ensuite, il y a eu l'apparition dans les années 2000, etc. Donc, même TV, le déchiffrement. Ouais. Où là, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se sont mises dans les radiofréquences, je dirais, 2.0.
Ouais.
Et là, maintenant, en fait, aujourd'hui, on arrive sur le fait que les voitures... je sais pas si tu as vu l'anecdote très récente, là, où un trafic d'enceintes Bluetooth... pour essayer d'ouvrir certaines voitures, ça s'est vendu. Donc en fait, on est sur un marché de la cybercriminalité aujourd'hui, que ça, tout ce qui est connecté finalement en radiofréquence, et en fait, il y a énormément de choses qui sont connectées.
Oui, bien sûr.
Et là, il y a vraiment des gens comme toi qui font de la recherche. C'est pour ça qu'on te voit peut-être avec une voiture. Tu peux nous expliquer quelle est cette voiture ?
En fait, à l'époque, je bossais à la région dans les années 2000, début des années 2010. Entre 2012 et 2016, je travaillais pour la région Île-de-France dans une agence régionale du numérique qui s'appelait La Fonderie. J'ai eu la chance d'avoir un directeur, Jean-Baptiste Roger, que je salue, qui était très friand à la fois de technologie, mais aussi c'est un prof d'histoire. Donc c'est quelqu'un qui, quand il m'a recruté, tenait à l'histoire, d'où on vient, à quel point la fonderie, la forge, l'acier a structuré évidemment ce pays. Donc, ça a permis d'avoir accès évidemment à des réseaux de télécommunications. Et on s'est intéressé aux véhicules. Au début, on parlait que de véhicules connectés, pas encore de véhicules autonomes. Et on a eu toutes les peines du monde à avoir de nos constructeurs nationaux un véhicule pour pouvoir commencer à travailler. Et donc, j'ai commencé à travailler sur un Nemo Citroën qui n'avait même pas de vitre électrique et qu'on a hacké. Donc, on a tiré de la fibre optique de l'avant à l'arrière du véhicule, des Raspberry Pi à l'arrière, des capteurs dans les rétroviseurs, panneaux solaires sur le toit, des systèmes de supervision et de mesure des signes vitaux pour simuler évidemment ce que pourrait vivre, ce que devrait avoir comme matériel des ambulanciers, des urgentistes du SAMU de Normandie, que je salue aussi, Hugues Parvillers. Voilà, ce sont ces personnes qui m'ont formé, qui m'ont recruté et qui m'ont confié la tâche de travailler sur ce que pourrait être un véhicule connecté, évidemment, avec les règles de sécurité associées. Le premier constructeur à m'avoir fait confiance là-dessus, c'est Tesla. Donc, j'ai fait beaucoup de shows au début avec des Tesla à Nantes, au Forum InCyber, etc. Alors, c'est des voitures qui sont très bien, mais qui ont l'avantage d'être mises à jour régulièrement. Et donc, les démonstrations de cybersécurité que l'on fait ce mois-ci ne marcheront pas le mois d'après. C'est très bien, ça prouve que
c'est bien de le savoir,
on a un constructeur qui met à jour et pas que lui, d'ailleurs.
T'as déjà rencontré Elon Musk ou pas ?
Alors, on s'est croisé à Chambourcy en 2016, fin 2016. Ouais. Quand il avait rendu visite à la concession Chambourcy. Ouais. Et j'étais à l'époque avec ce véhicule devant la concession à Chambourcy. Et ça, c'est le début de mes shows avec des Tesla.
Donc, il est venu voir ta démo.
On a travaillé sur ces véhicules parce que les équipes m'ont fait confiance. Et qui m'a fait confiance, c'est parce que c'est dans la culture de Tesla, dans la culture d'Elon Musk, de mettre à disposition ces véhicules. Et on l'a vu avec quelques exploits qui ont été réalisés par pas mal de personnes françaises, d'entreprises comme Synactive, qui ont réussi pas mal d'exploits par la suite sur ces véhicules. Mais les véhicules sur lesquels j'ai vraiment commencé, Tesla Model S, Tesla Model X, qu'on a eu l'occasion d'exposer à Disney, d'exposer sur des grands shows à Nantes, à Web Today. Pour moi, il faut imaginer. On est sur ce qui se fait de mieux à l'époque sur des véhicules les plus connectés. Et en même temps, en face, c'est aussi ça qui me motive. J'ai des urgentistes du SAMU qui rentrent à la main, au crayon à papier, les coordonnées GPS des personnes qui doivent aller sauver. On parle d'AVC, on parle de crise cardiaque. Ouais. Donc, faut imaginer ce que c'est dans ma tête, la schizophrénie par laquelle je suis atteint. On a des véhicules hyper connectés aujourd'hui, c'est limite du loisir pour moi. Et en même temps, des urgentistes qui n'ont pas ce qu'il faut pour bosser, pour aller sauver des vies. Et moi, je me mets un peu au milieu en me disant, OK, il n'y a pas d'incompatibilité. Et c'est important pour moi de pouvoir mettre à disposition de ces services de l'État tout ce qu'on peut avoir comme historique sur ces questions-là. Et c'est comme ça qu'est né le Red Pearl, mon véhicule atelier aujourd'hui, qui est un Toyota CHR, et dans lequel je travaille les 6 surfaces d'attaque types qu'on puisse avoir dans un véhicule, mais qui concernent tous les systèmes d'information, les vulnérabilités physiques, crochetage de serrure, intrusion fine, les vulnérabilités radioélectriques, donc là, les clés, utilisation de radio logiciel, de Flipper Zero, de USRP, de HackRF, toutes ces clés radio logiciel de Bluetooth, qui permettent d'accéder au réseau radio, à toute ou partie des réseaux radio d'un véhicule, les attaques électroniques sur les différents bus, les bus CAN, FlexRay, LIN, MOST, Ethernet 4K, les vulnérabilités logicielles, donc tous les logiciels d'IVI, les logiciels qui sont dans les calculateurs. Alors les IVI, ce sont les véhicules infotainment, donc tous les logiciels qui assurent à la fois l'information du conducteur, sa vitesse, les jauges de carburant, mais aussi le divertissement, pour afficher évidemment la playlist, et puis évidemment les communications clavier téléphonique pour appeler qui on veut. La vulnérabilité sur les données, le circuit de la donnée, la CNIL a fait il y a quelques années, une dizaine d'années, un récapitulatif complet du circuit de la donnée, de ce qui rentre dans la voiture, ce qui sort dans la voiture, ce qui circule dans la voiture pour sa bonne conduite, sa bonne marche. Et en fait, les vulnérabilités réseau, parce qu'évidemment, le véhicule est connecté aujourd'hui à de nombreux réseaux de positionnement par satellite, réseaux au niveau des réseaux filaires qu'on peut avoir maintenant et de plus en plus qu'on aura de plus en plus sur les câbles de charge, sur les réseaux cellulaires, réseaux Wi-Fi, Bluetooth auxquels on connecte nos appareils et évidemment notre maison. Bref, la voiture devient une extension de l'entreprise.
C'est un téléphone.
C'est un téléphone, c'est même un serveur qui est un peu l'extension de notre intimité, de notre maison, entreprise. Donc c'est un objet à part entière qui me permet à la fois de traiter ces problèmes, parce qu'on a quand même 144 000 vols de voitures par an en France. Les champions d'Europe de vols de voitures, c'est chiffre du ministère de l'Intérieur. Ça fait une voiture volée toutes les 4 minutes.
Ah d'accord.
Donc on a quand même un sujet sur la cybersécurité et la sécurité des véhicules. C'est le premier risque cyber d'ailleurs d'une voiture, c'est de se faire voler sa voiture. Et malheureusement, beaucoup de ces vulnérabilités passent par la radio et l'électronique. Et donc, évidemment, on a des problématiques cyber. Le Red Pearl, pour moi, c'est ça. C'est à la fois un symbole, parce que je suis Guadeloupéen, et que Pirates des Caraïbes, Jack Sparrow, Black Pearl, voilà. La voiture est rouge, donc c'est le Red Pearl. Je ne pourrais pas m'empêcher de dire un peu l'étymologie, un peu des pseudos et des noms de code des appareils et des machines sur lesquelles je travaille. Et cette voiture, pour moi, c'est vraiment la synthèse de tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu documenter, tout ce que j'ai pu transmettre aux forces de l'ordre, aux constructeurs, aux équipementiers, tout ce que j'ai appris de Tesla, de BYD aussi, avec qui je travaille de temps en temps. Et ce vers quoi on doit attendre, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut pas dans nos voitures. Cette sécurité et de cybersécurité de ces véhicules, on a une dernière affaire là en Norvège avec ces bus chinois. Le problème, c'est pas tant qu'ils soient chinois, ces bus. C'est pas tant que depuis la Chine, on puisse accéder au système d'information via des réseaux cellulaires norvégiens à ces bus chinois. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est nous, Européens, nous, Français, qu'est-ce que nous mettons en œuvre, sur quels équipementiers, sur quelles entreprises, et on a, je peux en parler, Quartz Lab, Synactive, IoT.bzh, pour ne pas pour citer que celle-là. On a des pépites aujourd'hui dans la cybersécurité embarquée, que je salue, qui m'aident beaucoup. C'est pour ça que je tiens à les citer, parce que ce sont des entreprises à la fois qui m'inspirent. La cybersécurité, tu l'as peut-être déjà dit, mais je le répète, c'est une école de l'humilité. On a forcément quelqu'un autour de nous qui est meilleur que nous ou qui va naître et sera meilleur que nous, mes enfants les premiers, et les jeunes que je forme évidemment ensuite. Et c'est important qu'on puisse à la fois s'inspirer dans la communauté, mais aussi transmettre et faire en sorte que la génération qui nous suit puisse pas partir de zéro, mais au moins du minimum de connaissances que nous avons acquises, nous, dans la communauté. Et derrière, eh bien, permettre, et je le fais avec mes élèves, mes étudiants, mes enfants, passer des licences de radio amateur qu'ils aient les bases.
Je savais que tu allais leur parler.
Il faut avoir les bases pour savoir comment se propage une onde, c'est quoi une modulation, c'est quoi de l'intermodulation, c'est quoi le brouillage, c'est quoi le spoofing, l'usurpation d'identité.
Passez votre licence.
Passez votre licence de radio amateur, et la NFR est évidemment là pour porter ces sujets-là. Je suis un peu long sur la partie véhicule, mais c'est un objet parfait pour moi qui parle à tout le monde, d'enfants jusqu'à des personnes à la retraite. Et c'est une très belle synthèse des défis qui nous attendent pour protéger nos infrastructures, nos systèmes d'information.
Très bien Gaël. Je pense que tu as très bien résumé l'histoire des radiofréquences, l'histoire de la communauté des hackers à travers les radiofréquences. J'ai appris plein de choses. Voilà, j'ai appris vraiment ces fameux jalons qui ont tout changé. Je pense que toute personne qui va maintenant pouvoir, qui a revu le podcast et qui ou l'écouter et qui vont pouvoir te croiser, comprendront un peu tes travaux et d'aller voir ta fameuse voiture. Quand même, je pense que là, voilà. Et merci beaucoup. C'était très intéressant.
Merci à toi pour
l'invitation. Salut.
À bientôt.